Vous avez de la chance, c'est jour de visite aujourd'hui. Ah. Monsieur Lebrun, que voici, vous accompagnera.
Quoi de neuf au Moyen-Âge ? La ville.
Mais ça me fait plaisir de voir qu'il y a encore des jeunes qui s'intéressent au passé.
Oui, je fais des recherches pour écrire un roman qui se passera au Moyen-Âge.
Ah, mais donc j'espère que vous allez rectifier toutes les bêtises qu'on a pu dire sur cette époque. Quand je pense qu'on a osé dire que le Moyen-Âge, c'était l'obscurantisme. L'obscurantisme.
Eh oui, le Moyen-Âge a été vu tour à tour comme une longue parenthèse d'obscurantisme, ou bien c'est le cas dans la fantaisie contemporaine, comme un espace d'exotisme. Son image, ses usages, varient selon les époques et leurs besoins. L'exemple de la ville est significatif. Si on lit les vieux manuels, on retient l'impression qu'elle s'est quasi effacée après la fin de l'époque romaine. Quant aux ouvrages de philosophie politique, ils passent directement de la cité de Platon à celle de Machiavel, comme s'ils devaient recouvrir une longue période de transition où il n'y aurait rien à voir. Heureusement, l'archéologie soulève la moquette. Ces deux dernières générations, elle a fait des découvertes d'importance. La géographie nous fait aussi concevoir le territoire autrement, quand elle parle, pour l'espace contemporain, de noyaux. Et de réseau, par exemple, eh bien, elle nous permet de mieux comprendre l'organisation des villes du premier Moyen-Âge, qui s'était maintenue, mais avec un tissu hétérogène, discontinu. Ensuite, dans la ville du XIIIe-XIVe siècle, le territoire et le pouvoir s'unifièrent derrière une enceinte autour d'une maison de ville, avec souvent un beffroi, une horloge. Un seuil était franchi, que les historiens repèrent bien, et qu'ils peuvent signaler aux urbanistes, ceux qui cherchent aujourd'hui à faire marcher ensemble toutes les fonctions de la ville, comme aux politiques, qui sont, on l'espère, à la recherche d'un bon gouvernement. Bon gouvernement. On pense aux fresques qui ornent depuis 1339 les murs du palais communal de Sienne. Les marchands vont et viennent, des troupeaux de moutons passent tranquillement, les raisins de la vigne mûrissent, les jeunes gens dansent. La ville douce, la céleste ville, selon Babar, était déjà entrevue au Moyen-Âge, mais ne passons pas d'une vision noire à une vision rose.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Avec Hélène Noiset, bonjour.
Bonjour.
Alors à l'exposition de la Villette, il y a une commissaire scientifique, Isabelle Catédu, et vous, vous avez été la conseillère historique de cette exposition. Je vous vois muette. Allez, je dis encore un autre de vos titres. Membre de l'Institut universitaire de France, c'est-à-dire que vous appartenez à une mince élite. Sauf que Hélène Noiset et les historiens disent, bon, c'est une géographe, oh, c'est une archéologue.
Oui, effectivement, je suis historienne, donc je travaille a priori les textes, la matière habituelle des historiens. Mais j'ai choisi un directeur de thèse qui était un archéologue. Henri Galinier, à Tours, qui lui-même était très concerné par la géographie. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'était sa vision de l'espace urbain.
Alors, l'archéologie a beaucoup progressé en matière médiévale, l'archéologie rurale, notamment dans les zones où il y a des travaux d'aménagement et où il faut faire des fouilles d'urgence. L'archéologie choisie aussi. Et en ce qui concerne l'archéologie urbaine, alors... Moi, j'ai toujours appris que dans la stratigraphie, là, l'échelle des terrains, il y avait ce qu'on appelait des terres noires, des terres sans matériel archéologique. Et quand on les trouve sur les lieux des villes, ça témoigne bien évidemment d'une discontinuité dans l'implantation humaine. Il y a eu une longue époque où, dans l'ancienne ville abandonnée, on revenait quoi ? L'agriculture, et la ville n'est ressuscitée qu'après ?
Eh ben non, pas du tout. Non. Quand vous dites ça, vous êtes un peu vieux.
Ah, vous êtes membre junior, vous, de l'Institut universitaire de France, j'ai oublié de le préciser.
Alors, c'est vrai que c'est les opérations d'archéologie préventive qui ont multiplié les découvertes des terres noires, en gros, dans tous les sites urbains de France et même en Europe, qui sont des niveaux archéologiques bruns, de plusieurs mètres d'épaisseur, et à l'intérieur desquels, à l'œil, on ne voit rien. On n'arrive pas à discerner les strates habituelles que les archéologues voient. Et on a longtemps interprété ça comme du rural, de la terre à jardin. Et en fait, pas du tout. On se rend compte que ce sont des manières différentes de construire les habitations qui ont fabriqué des sols différents. En fait, ces niveaux de terre noire, c'est bien des niveaux d'occupation, de construction de maisons, mais avec des modes complètement différents, c'est-à-dire qu'on n'a pas de sol en dur, pas de dallage en pierre dans les maisons ni même dans les rues. Donc on n'a pas de strates successives et on a au contraire des niveaux qui sont ce qu'on appelle les archéologues appellent ça pour rigoler, mais un réacteur biologique, puisque comme justement on n'a pas de séparation bien-être des sols, tous les rejets organiques liés à l'habitation humaine se mélangent et en fait au moment même du dépôt de ces couches et même après, il va y avoir une homogénéisation biologique, en gros les vers de terre et les bactéries, qui vont complètement qui vont manger proprement ces terres, les digérer et donc les rendre homogènes, complètement brunes et faire disparaître...
Si je comprends bien, je suis vieux et j'étais myope. Alors si on prend l'exemple du lieu de votre thèse, Tours, comment dans le premier Moyen-Âge, depuis l'époque carolingienne jusqu'au 11e, 12e siècle, s'organisaient les choses? Il y a une grande expo sur Saint-Martin à Tours, actuellement au Musée des Beaux-Arts.
Oui, tout à fait. L'exemple de Tours est assez caractéristique des villes en France. Il y a une cité romaine donc qui est où il y a le pouvoir épiscopal de l'évêque et du comte dans l'enceinte du 4e siècle de l'époque romaine. Et avant le 4e siècle, la ville était plus étendue à l'époque romaine. Et dans l'interprétation classique, à partir du 4e siècle, à la fin de l'Antiquité, la ville se rétracte uniquement dans sa partie orientale. Et il va y avoir, un kilomètre à l'ouest, autour, dans une nécropole publique, autour de la tombe de Martin, une église qui va être construite et qui va se développer énormément, qui va devenir une collégiale, le chapitre de Saint-Martin, et qui va devenir le lieu d'un pèlerinage très important au Moyen-Âge, à l'époque carolingienne. Donc il va y avoir un afflux de personnes très conséquent, ce qui fait qu'un bourg va se développer autour de cette église et un bourg qui va être beaucoup plus dynamique que la partie romaine de la cité, en fait, que la partie orientale qui est le site originel de la ville.
Et un noyau, donc, là, se constitue qui va être en réseau avec un lieu qui est à une cinquantaine de kilomètres, mais la voie fluviale, c'est très important pour les échanges au Moyen-Âge et qui est un port.
Tout à fait, on est au bord de la Loire. Et ce qui est important de comprendre, c'est que concrètement, les relations sont beaucoup plus fortes entre ce bourg ecclésiastique et ses domaines, qui peuvent être situés donc dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. Et on va faire venir depuis les domaines de l'abbaye, notamment à Caen de Saint-Martin, on sait qu'on a un lieu de stockage de la laine et du cuir pour fabriquer les vêtements et les chaussures des chanoines. Et on les fait venir par bateau depuis Caen, par la Loire, jusqu'à Tours.
Et ce noyau, Saint-Martin avec Caen, et ses relations particulières, en réseau, c'est très moderne aussi, c'est jeune ça aussi, c'est un lien qui fonctionne plus que le lien avec la cité épiscopale proche.
Tout à fait.
C'est un autre noyau.
Tout à fait. Il n'y a pas de continuité en fait entre les deux noyaux. C'est pas parce qu'ils sont proches, parce qu'effectivement il y a un kilomètre en gros entre les deux bouts, les deux noyaux, mais il n'y a pas de continuité avant en fait le XIVe siècle.
Alors un noyau épiscopal, prenons un autre exemple, c'est celui de Chartres. Alain Erland Brandebourg, grand historien des cathédrales, raconte comment l'évêque du début du XIe siècle, Fulbert, avait organisé une puis une autre cathédrale.
On commence à construire des édifices gigantesques qui correspondent évidemment au boom démographique des villes et des diocèses particulièrement sensibles dans le nord de la France. Et Fulbert va tâcher de répondre à tout cela en lançant un monument qui se divise en deux éléments. La partie inférieure avec deux longs couloirs qui sont creusés dans le sol et qui se réunissent dans ce qu'on appelle un déambulatoire avec chapelle rayonnante et qui est destiné aux pèlerins, destiné au culte qu'ils veulent. Et ensuite, une église supérieure, gigantesque, destinée, elle, aux fidèles du diocèse et où exerce l'évêque. Alors, cette cathédrale est en bois, elle est fragile et elle brûle. Alors, la grande idée en 194, on va construire entièrement en pierre. Pour la première fois, la référence antique est abandonnée par les architectes qu'on appelle aujourd'hui gothiques, pour créer des volumes, des espaces, l'abbé Sugère l'a très bien dit dans ses ouvrages, et on imagine cet espace, encore une fois, pour que l'évêque, les chanoines, les fidèles puissent participer à l'Eucharistie.
Vous avez entendu ce qu'il a dit, alors au travail! Cette porte a besoin d'un arc, si on veut la renforcer. Le rôle de l'arc est de répartir le poids de façon égale dans les deux piliers, et ensuite dans le sol. Vous comprenez? Ce que je demande au carrier, c'est de tailler des pierres de la même dimension que celles déjà en place. Alors sortez celles qui ne tiennent plus, et si elles sont intactes, replacez-les avec du mortier. Mais si elles sont fendues, mettez-les en pile tous les 10 pieds, d'accord ?
Allez, tous au travail, c'est l'évêque qui commande. L'idée, c'est un tout ecclésial. Cathédrale de bois. De même, j'imagine que les maisons ne sont pas de pierre au pied de la cathédrale. Qu'est-ce que l'archéologie urbaine, dans ce domaine, vous apprend, Hélène Noiset ?
Effectivement, au moins pour la moitié nord de la France, la construction qui allie des matériaux périssables, bois terre, donc bois ou torchis, est majoritaire jusqu'au XIIe siècle inclus. Et même, il ne faut pas forcément imaginer dans la disposition des maisons une configuration actuelle avec l'image qu'on a habituellement d'une rue bordée de maisons mitoyennes avec une cour en arrière et des bâtiments annexes en fond de parcelle. Ça, c'est un tissu urbain qui ne se met vraiment en place que parfois tardivement, 12e, parfois 13e siècle. On a des exemples de fouilles préventives en région parisienne, à Villiers-le-Bel, ou à Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis, qui montrent que on a un habitat qui peut être pour autant dense, qui n'est pas forcément inexistant ou faible, hein, mais les occupations, les maisons peuvent être disjointes. Elles ne sont pas
donc
forcément
sur ce continues. Premier versant du Moyen-Âge, on est dans une structure qui n'est pas sans rappeler certaines... des villes d'aujourd'hui, des lotissements avec
tout à fait, on pourrait,
les maisons espacées.
Il y a beaucoup de points communs entre le périurbain actuel et la ville réseau du premier Moyen-Âge, à mon avis.
Les cathédrales sont aussi en réseau, puisque les ouvriers qui viennent y travailler viennent souvent de loin. Vous pouvez nous dire comment s'organise un plan de cathédrale ? J'imagine qu'on a, je suis peut-être vieux quand je dis ça, qu'on a un plan tout fait, avec un architecte qui a tout dessiné.
Eh ben non, justement, ça n'existe pas avant la toute fin du Moyen-Âge. On a peine à imaginer ça, mais en fait, même les premières grandes cathédrales gothiques ont été construites sans plan préalable. Le plan d'architecte que nous, qu'on ne peut pas ne pas concevoir aujourd'hui quand on construit un grand bâtiment, n'existe pas. C'est-à-dire que la construction est un processus qu'on appelle incrémental, très progressif, où le chef de chantier, qui est en fait à la fois constructeur et architecte, c'est une même personne, est tout le temps sur le chantier, et il y a des choix architecturaux qui sont faits au fur et à mesure de la construction. Tout n'est pas défini en amont et on n'a pas un projet bien défini et bien emballé.
C'est-à-dire que quand il y a des carnet de dessin, ça existe, c'est comme un couteau suisse avec des solutions techniques qu'on sort de sa poche.
Exactement.
En fonction de chaque événement qui risque de se produire. Alors, autour de l'école cathédrale, il peut y avoir des écoles cathédrales, c'est le cas à Chartres, elle est très importante, autour de Fulbert, c'est le cas à Notre-Dame, ou d'ailleurs, sur la façade de la première cathédrale, il y avait peut-être des portraits de maîtres du premier Moyen-Âge. Et puis, l'université, ensuite, va tenter de constituer un autre noyau.
Les visages des statues sur l'église permettent d'imaginer sans peine les traits des maîtres prestigieux qui se succédèrent là. Il y eut Saint-Dominique. Il y eut Saint-Bonaventure. Et il y eut Abélard, enfin, qui connut Héloïse. 11e siècle maintenant. Le roi est encore en son palais de Lille. Abélard ne peut plus supporter l'autorité du cloître et la toute-puissance des prêtres. Il s'en va vers la rive gauche, franchit le pont, le petit pont, et va s'installer sur la montagne Sainte-Geneviève, donnant à ce quartier sa vocation définitive.
Les écrits d'Aristote à travers ceux de Boès et de Porphyre vont-ils répondre à notre question ? Les genres et les espèces existent-ils par eux-mêmes ou bien ne sont-ils que des constructions de notre esprit ? En d'autres termes, les individus seuls existent-ils ou bien l'espèce, l'humanité, existe-t-elle par elle-même indépendamment des individus qui la composent ?
Notre maître Guillaume de Champeau affirmait que tous les hommes participent d'une même espèce qu'on nomme l'espèce humaine.
Et que par conséquent, Socrate et Platon sont le même homme et que moi, Pierre Abélard et toi, Gautier, nous sommes le même homme.
On ne parlera jamais assez d'Aristote. D'ailleurs, la philosophie politique d'Aristote, ça a peut-être une influence sur la ville. Mais avec vous, Hélène Noiset, on parle davantage géographie, archéologie. Donc là, Abélard et puis d'autres, ils vont constituer un autre noyau dans la ville de Paris dont on n'a pas d'ailleurs dit grand-chose jusqu'ici, alors que c'était la ville la plus importante à cette époque d'Europe, non ?
Alors, la ville
ou un peu plus tard, elle est devenue la ville la plus importante ?
Oui, c'est devenu la ville la plus importante à partir du XIIIe siècle.
Alors là, on est encore sur le premier versant du Moyen-Âge, 11e, 12e. Ce noyau universitaire, il va se disjoindre un peu du noyau épiscopal. Sur la rive gauche, il ne va pas rejoindre un autre noyau qui est celui de Saint-Germain-des-Prés ?
Non, pas du tout. Saint-Germain-des-Prés constitue un bourg à part pendant tout le Moyen-Âge et la seigneurie ecclésiastique de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés tient bien à conserver son indépendance, ses privilèges seigneuriaux, sa justice. Comme d'autres bourgs, on a d'autres noyaux. Sur la rive gauche, c'est essentiellement Sainte-Geneviève qui est le seigneur ecclésiastique principal. Et effectivement, à partir du début du XIIe siècle, il y a Saint-Victor, où s'installe Guillaume de Champeaux, le grand ennemi d'Abélard. Donc on a sur la rive gauche une constellation, comme voilà, de façon tout à fait classique, comme avec ce qu'on disait tout à l'heure, de seigneurs ecclésiastiques, des abbayes, des collégiales, qui ont leur propre pouvoir seigneurial dans ce qu'on appelle leur sens civil, dans leur terre.
Noyau et réseau, parce que l'université, elle est en réseau avec d'autres. Il y a un mouvement des étudiants, il y a un mouvement des professeurs circulatoires. Et puis il y a des places, Jacques Le Goff disait qu'on y entendait le tribunal des flagrants délires. Pendant le Moyen-Âge, il y avait des rites, des chants, des histoires, des plaisanteries ou des incursions parfaitement anachroniques comme celle que nous avons choisie. Duke Ellington, il faut dire que le titre de ce morceau a quelques rapports avec notre sujet, « Ville is the place, man ».
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Quoi de neuf au Moyen-Âge? Aujourd'hui, c'est le titre d'une exposition de la Cité des sciences de la Villette à laquelle a collaboré Hélène Loiseau, notre invitée. Quoi de neuf, par exemple, la ville. Alors, il y a un seuil ou un autre versant, je ne sais comment dire, à partir du XIIIe, XIVe siècle, quand l'unité se fait entre les noyaux que vous nous avez décrits pour le premier versant du Moyen-Âge.
Tout à fait. Et on peut dire que le pouvoir municipal, classiquement, ne se formalise vraiment que dans cette seconde phase, à la fin du Moyen-Âge, ou plutôt 13e et plus souvent 14e siècle, notamment en France, au moment du début de la guerre de Cent Ans, dans les années 1355-1356. Il y a une génération, on peut dire, de pouvoirs municipaux qui donc constitue une nouveauté parce que pour la première fois, on a un pouvoir qui va s'appliquer à l'ensemble de l'agglomération. Alors que jusque-là, les pouvoirs seigneuriaux cohabitaient, étaient juxtaposés, enchevêtrés. Et là, s'ajoute un nouveau pouvoir qui ne remplace pas du tout les pouvoirs seigneuriaux. Les pouvoirs seigneuriaux sont toujours là. Mais un nouveau pouvoir qui conçoit la ville comme une personne morale, on dirait. Un corps unique qui existe, qui est une communauté en tant que telle.
Si on prend l'exemple de Tours, ça se rend visible à l'œil nu avec une enceinte qui réunit les noyaux que vous nous y avez décrits tout à l'heure.
C'est ça, exactement ça, puisque en 1355-1356, dans un premier temps, dans un but défensif pour se protéger des chevauchées anglaises, il faut construire une enceinte de réunion, puisque la ville, donc à partir des deux noyaux de la cité épiscopale et du bourg de Saint-Martin, s'était développée, s'était étendue, jusqu'à former effectivement une agglomération continue, mais n'existait en fait comme enceinte que les deux petites enceintes de ces deux quartiers, l'enceinte romaine autour de la cité, cité et à l'ouest du côté de Saint-Martin, l'enceinte du bourg de Saint-Martin. Et donc on construit une grande enceinte de réunion qui va rassembler la principale population agglomérée dans un premier temps pour se protéger face aux dangers militaires. Et ce qu'il faut voir, c'est que pour créer cette enceinte, évidemment, il faut des sous. Donc ça veut dire qu'il faut lever un impôt. Donc il faut un pouvoir. Et c'est comme ça que le pouvoir municipal, que beaucoup de pouvoirs municipaux se sont créés en fait.
Et que s'associe l'unité politique et l'unité spatiale que vous venez de nous décrire dans le catalogue du catalogue, dans le catalogue de l'exposition de la Cité des Sciences, fort bien fait et édité par la Martinière. On voit par exemple un sceau, le sceau de la ville de Tournai. Et là, qu'est-ce qu'il y a sur le sceau?
Alors il y a le beffroi et l'enceinte. Le beffroi et l'enceinte.
Alors le beffroi sur lequel on pose souvent l'horloge, c'est ce que disait apostrophe 1978 Jacques Le Goff, déjà cité, mais qui sur la ville du Moyen-Âge peut l'être encore une fois.
Le temps de l'Église, il a été fixé par un phénomène capital, mal étudié, c'est le temps des cloches. Or les cloches, ça n'existait pas dans l'Antiquité ni au début du christianisme. Les cloches apparaissent au 6e et au 7e siècle. Et elles deviennent l'encadrement de tous les actes de la vie quotidienne. Et puis voilà que, un beau jour, il y a des activités laïques qui prennent une telle importance que ce temps des cloches ne leur convient pas. Alors ils cherchent eux aussi à s'approprier une autre façon de mesurer le temps. Et c'est ce qu'on a appelé le temps des bourgeois, le temps des beffrois, le temps des horloges. L'horloge, c'est une invention du Moyen-Âge. Et à la fin du Moyen-Âge, on voit apparaître quelque chose de nouveau et qui aussi, je crois, est capital dans l'histoire. C'est la montre qui représente le temps individuel.
Elle arrivait à quelle époque, la montre?
Fin 15e. L'horloge, fin 13e, début 14e.
Quand on est marchand, il faut tous être à la même heure. Des cités marchandes sont des laboratoires de cette ville nouvelle du 13e, 14e siècle. Ce sont les cités italiennes.
Oui, alors qu'ils font effectivement figure de préfiguration de la ville territoriale, avec à la fois la mosaïque des pouvoirs seigneuriaux qui construisent de multiples tours seigneuriales dans la ville et qui montrent aux yeux de tous le pouvoir des seigneurs, et qui en même temps va élaborer des pouvoirs municipaux puissants et une culture urbaine très particulière.
Alors dans une enceinte de réunion, je reprends en votre terme, des activités économiques vigoureuses, dynamiques, des infrastructures de toutes sortes hein, qui sont là aussi présentes, et puis des édifices qui doivent être beaux. Alors qui les construit, ces édifices communaux ?
Le pouvoir municipal, donc en général on a plusieurs types, on peut avoir une maison de ville, ce qu'on appellerait nous aujourd'hui la municipalité, mais c'est quand même relativement, c'est pas le plus fréquent. On peut avoir donc le beffroi qui va effectivement contenir l'horloge qui va désormais dicter le temps en concurrence avec le pouvoir de l'église, mais on peut avoir aussi des maisons simplement de ville à l'intérieur desquelles on va par exemple procéder aux transactions commerciales, ou des halles par exemple.
On va prendre quand même, si vous le voulez, l'exemple d'un bâtiment d'exception, le Palazzo Comunale de Sienne, parce que c'est là qu'entre 1337 et 1339, Lorenzetti a peint la fameuse fresque du bon et du mauvais gouvernement, ici commentée par Gérard Fromanger, le peintre français qui aime beaucoup la ville de Sienne.
Ça commence par une image des allégories. Je crois que c'est en arrivant sur le mur de droite, les allégories du bon gouvernement, avec les figures de la justice, la foi, l'espérance et la charité, la prudence, la magnanimité, la tempérance, la sagesse, la paix, etc. Et des portraits un peu emblématiques, symbolique de la ville de Sienne, avec les couleurs noir et blanc, les personnages qui la représentent, qui l'ont fait naître d'une façon légendaire. Et puis, sur la gauche, une fois qu'on a franchi la porte, donc on a eu ce mur de droite, sur la gauche, on a les effets de ce bon gouvernement. Après avoir jeté un œil sur l'allégorie, on a les effets qui concernent à la fois, sur la première moitié, la ville, et sur la deuxième moitié, la campagne. Donc un ensemble allégorique puis réaliste des effets laïques du bon gouvernement.
C'est-à-dire la ville et la campagne, c'est la totalité du paysage humain.
Voilà. Puis alors, sur le mur d'en face, il y a les allégories
et les effets du mauvais gouvernement. Et donc on a la totalité du monde idéologique de l'époque en train de se créer et qui... mais on ne le saura qu'après, évidemment. On ne peut le dire qu'aujourd'hui. Effectivement, annonce déjà très fortement l'esprit de la Renaissance.
Une émission de France Culture, 2001, Pascal Lismonde. La lecture de Fromanger n'est pas si différente de la vôtre, Hélène Noiset.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est la première fois qu'on a avec cette fresque la représentation d'un binôme catégoriel nouveau qui est le binôme ville-campagne. C'est-à-dire que désormais, on est forcément de l'un ou de l'autre. On est soit de la ville, soit de la campagne. Et le monde est pensé à travers ces deux catégories spatiales qui sont jointives, hein, qui sont représentées de manière continue, donc en quelque sorte territoriale, avec l'enceinte qui est représentée, qui est bien au milieu, comme ça a été décrit. Et c'est une manière de penser l'occupation humaine qui est nouvelle.
Mais on voit la ville de Sienne représentée dans son entier, alors que dans la peinture auparavant, Giotto ou d'autres, on voyait un mur en arrière-plan, une porte, mais pas davantage.
Voilà, la grande différence, c'est que désormais, avec cette fresque, on a un changement, on pourrait dire, dans le régime de vérité de l'image, c'est-à-dire que désormais, l'image se prétend réaliste, se veut réaliste. Bien sûr, elle ne l'est pas plus que n'importe quelle image aujourd'hui, n'importe quelle photo. Mais les images précédentes, du premier Moyen-Âge, qu'on a sur les sceaux, ou les chapiteaux des cloîtres, elles ne cherchent pas du tout, elles ne se prétendent pas réalistes. Elles cherchent à signifier la ville, donc un symbole suffit. Elles ne cherchent en aucun cas à la représenter. Et là, l'objectif est différent. On cherche effectivement à la représenter.
Je faisais la comparaison avec Céleste Ville, mais vous n'avez pas lu Babar, vous êtes trop jeune. On voit sous l'autorité de Babar les activités se répartir. Céleste Ville, ville céleste. Et ni chez Babar, ni chez Lorenzetti, il n'y a de clergé. Pourtant, il y avait plein de franciscains, de dominicains et de gens de tous les ordres à Sienne.
Et oui, et c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, une des particularités de cette fresque, c'est d'atténuer complètement la présence cléricale en ville. Or, on sait qu'elle était effectivement très importante. C'est-à-dire que sur la fresque, on ne voit quasiment aucune église, on aperçoit un tout petit peu en haut à gauche le Duomo, et on n'a pas de clerc. Donc il y a une volonté très nette de montrer un pouvoir urbain sécularisé, affranchi en quelque sorte de la présence de l'église, et qui veut suggérer que la ville en elle-même, en fait, par sa perfection géométrique, par sa beauté, par son urbanisme, par les activités qui s'y déroulent, elle peut signifier Dieu. Elle peut renvoyer directement au monde céleste, effectivement.
Et puis, il y a cette argumentation nouvelle qui paraît étrange. Encore aujourd'hui, c'est en ville qu'on est un meilleur chrétien qu'à la campagne. Bernard d'Ancienne, il dit ça.
Oui, tout à fait. Il y a un renversement des valeurs par rapport au monde urbain qui, initialement, est plutôt perçu comme le monde des péchés et qui, là, va, pour la première fois, à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, devenir le monde de la perfection.
Donc la ville n'est pas Babylone. C'est une des leçons de cette émission de réactualisation de nos connaissances sur la ville que vous avez menée, Hélène Noiset. Je rappelle l'exposition de la Cité des Sciences. Quoi de neuf au Moyen-Âge? Clara Garzone, Marion Philippe, Martin Cellier dans l'équipe de La Marche de l'Histoire avec Franck Livard, Valérie Estaraille à la réalisation, Philippe Duclos à la technique.